Bonjour, bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter et merci de nous être fidèles tous les samedis au sommaire de l'émission jusqu'à 13h dans un instant. Retour sur la semaine avec le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein et puis le débat à quelques jours des Césars. Ce sera vendredi prochain, une cérémonie qui se prépare sous haute tension après une année ciné marquée notamment par l'affaire Polanski. Le récit de Ronan Farrow, la colère d'Adèle Haenel, comment filmer les femmes après la vague MeToo et le combat féministe doit-il passer par une bataille sur le front des images. L'égalité entre hommes et femmes est-elle aussi une question de représentation au cinéma, à la télévision, dans la pub? Invitée du grand face-à-face, elle publie un essai passionnant, Le regard au féminin, une révolution à l'écran. Elle est autrice, critique cinéma. Rendez-vous avec Iris Bray dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut à tous les deux.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Je peux dire autrice, Natacha, on dit bien directrice.
Oui, puis c'est pour ça, les évolutions du vocabulaire, quand elles se font de façon naturelle et spontanée et selon une nécessité, me semblent tout à fait louables.
Et pour revenir sur la semaine, on commence évidemment par ça.
Vous savez, nous sommes des femmes et des hommes. Je suis un père de famille. Et ça vaut pour chacun d'entre nous. Et donc, il faut accepter aussi nos forces, nos fragilités. Il ne faut pas prétendre qu'on soit des super-héros. Et moi, j'invite la classe politique à beaucoup de modestie. J'ai été surpris d'entendre Olivier Faure ici, dans votre micro. Je connais bien Olivier Faure à titre personnel depuis longtemps. Je l'ai accompagné dans ses divorces, dans ses séparations. Et c'est vrai que j'ai entendu... En étant assez étonné, ces leçons de morale.
C'était le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, mercredi matin au micro de Nicolas Demorand. Des propos, une attaque personnelle qui ont déclenché l'indignation de tous les bords de la classe politique, du principal intéressé lui-même. Olivier Faure parlait d'une faute grave commise par Christophe Castaner. Une ligne rouge aurait été franchie à l'en croire et c'est l'un des derniers développements de cette affaire stupéfiante, ce qu'on appelle le Griveaux-Gate. Un mot en couverture de Marianne, et c'est un gros mot, Natacha.
Oui, enfin, il n'y a pas qu'un mot, il y en a trois.
Il y en a trois,
le
mais
con,
celui-là...
les brutes et les truands.
Le con ?
Ben oui, il y a celui qui a commis, non pas une faute morale, mais une faute professionnelle. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que n'importe quel parent explique à ses adolescents qu'on n'envoie pas ce genre de vidéo parce qu'on ne sait pas où ça va aller. Bon, voilà, c'est très étonnant de la part d'un secrétaire d'État. Oui, mais en général, quand on est secrétaire d'État, on a passé l'adolescence. Et ensuite, les brutes, c'est-à-dire des activistes qui ont décidé de déstabiliser... un pouvoir pour des raisons d'ailleurs totalement narcissiques. Et enfin, les truands, c'est-à-dire ceux qui en profitent pour nous expliquer qu'il va falloir durcir la loi Avia, durcir la loi fake news, et puis qui finalement ont réussi à sauver une campagne qui tournait au naufrage en mettant Agnès Buzyn, enfin en obligeant Agnès Buzyn à abandonner un ministère en pleine crise de l'hôpital. Enfin voilà, tout ça est merveilleux. Mais sur Christophe Castaner, là, ce qui est extraordinaire, c'est quand même que c'est... Quand on a touché le fond, on peut toujours sortir les tractopelles, quoi. C'est-à-dire que, en termes de dignité, ces derniers temps, la classe politique atteint des sommets. Parce que si on réécoute la déclaration d'Olivier Faure, Olivier Faure avait été parfait justement parce qu'il n'avait pas parlé de morale. Il avait expliqué, encore une fois, ce que je viens de dire, à savoir que il y a un problème de compétences et de fautes professionnelles, mais qu'après, chacun fait ce qu'il veut dans l'intimité de son rapport conjugal, ça le regarde. Donc, il ne n'étalait pas la vie privée. Christophe Castaner répond sur un domaine, c'est absolument effarant, mais effarant.
Gilles Finkelstein, sur ce sujet, et ensuite on va parler du fond de l'affaire Griveaux.
Oui, sur ce sujet, je n'en dirai pas tellement plus, parce que je partage ce que vient de dire Natacha Polony, d'ailleurs à tel point que Christophe Castaner a fini par regretter publiquement les propos, à la fois sur Twitter, puis dans une déclaration à l'AFP. Ce n'est pas l'épisode le plus glorieux de cette sombre semaine, sur laquelle il est intéressant de revenir un peu à froid. Oui, maintenant, oui. Une semaine après, donc quand Natacha Polony dit ce n'est pas une faute morale, c'est une faute professionnelle, je crois que c'est exactement ça. C'est une enquête réalisée par l'IFOP a montré à quel point cette pratique de l'envoi de vidéos ou de photos était une pratique répandue.
Enquête passionnante justement.
Enquête passionnante, 36% des 18-30 ans y ont recours et un pourcentage également important de l'ensemble de la population. Donc il n'y a pas de
36% des jeunes qui auraient envoyé des dick pics comme on appelle ça, et pour les adultes et l'ensemble de la population française, on est à 16% à peu près.
C'est ça. Donc c'est une pratique relativement courante. Pas de jugement, aucun jugement moral.
En revanche,
faute professionnelle. Et je crois.
Mais
que
pourquoi faute professionnelle?
Alors pourquoi faute professionnelle?
Si ça relève de l'intimité, il y a quelque chose de contradictoire à dire. Bien, voilà, on n'a pas à s'intéresser à la vie privée de chacun, et la vie publique s'arrête à la porte de la chambre à coucher ou de la salle de bain ou peu importe. Mais en l'occurrence, s'il y a cette limite là, pourquoi s'indigner ou critiquer ça sur le plan professionnel ou technique?
Alors, quand on essaye, c'est peut-être là l'intérêt de une semaine après d'essayer de remettre en perspective ce qui s'est passé dans l'histoire de la vie privée. On assiste, je crois, à un renversement historique. En gros, de manière extrêmement schématique, au XVIIIe et au XIXe siècle, c'est l'histoire de la vie privée de Duby, avoir une vie privée était un privilège de classe. C'est-à-dire que les pauvres, parce qu'ils vivaient dans le village, parce qu'ils vivaient nombreux dans des habitations étroites, n'avaient pas de vie privée. Mmh. Le XXe siècle a été un siècle dans lequel tout le monde a accédé à la vie privée, à la fois parce que ses conditions matérielles ont évolué et parce que la vie privée a eu une valeur qui est devenue une valeur sacrée et protégée par les grands textes et notamment par le Conseil constitutionnel. Ce à quoi nous assistons depuis quelques années est un renversement historique au sens où ce sont maintenant les puissants, les célébrités qui ont moins le droit à une vie privée que les autres. Et c'est ça qui est terrible, et c'est ce en quoi c'est une atteinte à la démocratie, et je crois ce en quoi c'est un problème, parce que ça commence par ceux qui sont les plus célèbres, et ça peut demain toucher tout le monde.
Natacha.
Je pense que, enfin, dans la guerre du Péloponnèse, Thucydide donne une définition de la démocratie extrêmement intéressante. On est à la fin du 5e siècle, début du 4e siècle avant Jésus-Christ, et déjà,
et il y avait pas la 4G.
L'un des éléments essentiels pour définir la démocratie, selon lui, est la différence entre la frontière entre espace public et espace privé. C'est absolument fondamental. Mais ce que nous sommes en train de vivre est plus intéressant, puisqu'en fait, le problème est que les réseaux sociaux, qui auraient pu être une extension de l'espace public et une sorte d'agora absolument passionnante, sont au contraire une extension de l'espace privé. Et en fait, sont devenus le lieu de déversement de cet espace privé qui devient public, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et ce qui est profondément dangereux, je pense, et nous n'avons pas fini de voir les conséquences de cela. Et ce n'est pas parce que ça se fait le plus souvent volontairement de la part, alors là en l'occurrence c'est Benjamin Griveaux, ça n'était pas volontaire, mais dans les pratiques aujourd'hui, la rupture entre l'espace privé et l'espace public est souvent volontaire, et d'ailleurs chez les politiques en particulier, et dans un sens, même un Benjamin Griveaux qui met en scène sa famille en une de Paris Match, abolit cette frontière entre espace public et espace privé, ce qui lui revient
dans
la figure.
Enfin, c'est un passage obligé pour tout politique qui a des ambitions.
C'est devenu un passage de plus en plus obligé, et ça a des conséquences, en effet, par la suite, sur la façon dont nous percevons cette frontière essentielle pour la liberté.
Donc, con.
En tout cas, victime, oui,
bon,
et
victime
par imprudence et par incompétence.
Gilles, une question malgré tout, puisque vous mesurez l'opinion et que vous savez absolument tout de ce qu'il y a dans la tête des Français, mais on a vu une condamnation absolument unanime après cette porno-divulgation, comme on l'a présenté. Condamnation unanime, est-ce qu'elle est partagée par les Français? Puisque si tout le monde trouve qu'on n'avait pas à diffuser cette vidéo et qu'après tout, c'est l'affaire de Benjamin Griveaux et de la personne à laquelle il envoyait ces images et que c'était apparemment une relation consentie, ça ne devrait pas avoir d'incidence et on devrait y être indifférent. Or, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Benjamin Griveaux a été contraint ou a choisi de démissionner et quant à l'opinion publique, on dit qu'elle n'aurait pas suivi un candidat au municipal après la divulgation de ces vidéos.
D'abord, je ne sais pas quel est. Il n'y a pas eu encore d'enquête pour savoir ce que les Français pensaient du sujet. En revanche, ce que l'on sait déjà, c'est combien ont été exposés et combien en ont parlé. Et c'est des proportions absolument considérables pour un événement comme ça, puisque 75% des Français disent en avoir parlé, donc dans la semaine écoulée, et 4 millions d'entre eux avoir vu la vidéo, ce qui est absolument considérable. Donc c'est un vrai événement d'opinion. Est-ce qu'il aurait dû avoir comme conséquence le retrait de la candidature de Benjamin Griveaux? Là, je crois qu'il faut distinguer deux choses. D'un point de vue de la démocratie, on peut soutenir l'idée qu'il aurait dû maintenir sa candidature et faire acte de résistance face à une situation qui est inacceptable.
Oui.
Après, d'un point de vue personnel, du point de vue psychologique, je pense que lui a considéré peut-être qu'il aurait dû rester, mais qu'il ne pouvait pas le faire, qu'il ne pouvait pas le faire, peut-être pour des raisons politiques, sûrement pour des raisons personnelles et psychologiques. Et là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de respecter le choix qu'il a fait.
Encore un mot et on va changer de sujet.
Un mot ensuite sur les commentaires auxquels tout cela a donné lieu.
Oui.
Première chose, l'un des éléments les plus amusants et les plus consternants en même temps a été de voir un artiste russe qui célébrait comme artiste héroïque, résistant à Vladimir Poutine, tout à coup devenir en l'espace de deux jours, par les mêmes qui le célébraient, un activiste dangereux, éventuellement manipulé par Vladimir Poutine. Oui. Donc je pense qu'il y a un peu d'excès dans les deux sens, hein, et qu'il faut peut-être raison garder, mais en tout cas le concept d'artiste dans ces cas-là mérite d'être interrogé. Je ne sais pas si se clouer les couilles sur la place rouge équivaut à peindre Guernica. Pour ma part, j'ai un doute. Et deuxième chose, je le disais tout à l'heure, la conséquence de cela, c'est que tout à coup, on vient nous expliquer qu'il faut durcir la loi fake news.
Je suis en train de réfléchir à ma comparaison entre Piotr Pavlensky et Picasso.
Voilà, merci. Non, mais après, la conséquence, c'est qu'on va nous expliquer qu'il faut durcir des lois qui sont des lois qui réduisent la liberté d'expression, alors que le problème dont il est question n'a strictement rien à voir. C'est quand même effarant. Mais immédiatement, on a des supposés libéraux qui ne pensent qu'à une chose, c'est restreindre les libertés. Je trouve ça profondément inquiétant.
Et d'un mot, puisque 4 millions de personnes ont vu cette vidéo, qu'est-ce que ça dit de nous, pour le coup ? Nous sommes tous voyeuristes ?
Pour ma part, je n'ai pas regardé. On m'a envoyé le lien, je n'ai pas regardé.
Gilles, sans mentir.
J'ai pas envie.
Sans mentir, je l'ai vu et franchement, c'est assez désagréable.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Dans la République, on ne peut pas accepter qu'on refuse de serrer la main à une femme parce qu'elle est femme. Dans la République, on ne peut pas exiger des certificats de virginité pour se marier. Dans la République, on ne doit jamais accepter que les lois de la religion puissent être supérieures aux lois de la République. Ce que nous devons combattre, c'est ce séparatisme que je viens d'évoquer, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de respect.
Le président de la République qui présentait mardi à Toulouse... Le président de la République qui présentait mardi à Mulhouse son plan pour lutter contre le séparatisme islamiste. Les mots sont importants. Le chef de l'État a notamment annoncé que la France allait cesser d'accueillir des imams détachés, c'est-à-dire envoyés par d'autres pays. Natacha, comment est-ce que vous avez reçu ce discours dont on a dit que c'était un discours attendu, qu'il aurait peut-être dû prononcer il y a des mois maintenant ?
Oui, Emmanuel Macron a expliqué qu'il avait parlé 50 fois de la laïcité. C'est curieux, personne ne l'a entendu. On n'avait pas remarqué. Mais bon, il y a deux choses à distinguer, je pense. Il y a les mesures qui sont annoncées et qui me semblent des mesures de bon sens, tout à fait appréciables, qu'il aurait fallu prendre bien avant. En finir avec les imams détachés, en finir avec les ELCO, les enseignements de langue et culture d'origine. C'est d'ailleurs ce qu'avait commencer à faire Najat Vallaud-Belkacem, mais tout cela prend un temps fou et beaucoup trop de temps.
Transformant en enseignements internationaux aux langues étrangères.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que derrière tout cela, il y a le fait que la France, pendant des décennies, a confié le discours tenu notamment sur l'islam à des gens qui n'étaient pas français, qui ne parlaient pas français souvent et qui ne comprenait rien et n'adhérait absolument pas aux valeurs qui sont les nôtres. Il ne faut pas s'étonner que ça ait des conséquences. En revanche, après, il y a beaucoup à dire sur le choix des mots d'Emmanuel Macron, puisque justement, il adore mettre en scène ce choix des mots, donc en particulier ce mot séparatisme. Voilà. Là, il y a quelque chose qui est très différent. Autant les mesures sont très bonnes, on attend la suite, mais parfait, autant le séparatisme, c'est une petite partie du problème. C'est ce qui est à l'œuvre quand des salafistes vivent en dehors de la République et qu'on nous explique, comme certains chercheurs le font, je pense à Raphaël Liogier ou d'autres gens comme ça, que ça ne pose aucun problème puisqu'ils sont quiétistes. Et que le problème est justement dans ce séparatisme qui fait qu'on considère qu'on n'a rien à voir avec la République. Mais ce n'est pas le seul problème. Et effacer la question du communautarisme me semble dangereuse parce qu'en fait, en faisant cela, Emmanuel Macron nous envoie un message. Il dit « Les communautés, c'est formidable, c'est très bien, ça existe désormais dans la République. Sauf que le principe de la République, c'est qu'elle ne reconnaît pas les communautés, mais les individus et le droit des individus à ne pas être enfermés dans une communauté. » Et c'est une question majeure.
Finkelstein, Gilles.
Alors, je vais reprendre la distinction de Natacha Polony entre les mots et les actes. Sur les actes, Natacha dit ça va dans le bon sens et c'est des mesures appréciables. Moi, je suis frappé par l'écart entre le discours et les actes. C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, un discours, je crois qu'il est un bon discours, mais il y a relativement peu de mesures derrière. Les mesures sur l'enseignement des langues
et cultures d'origine.
Cultures d'origine, vous l'avez dit, ça a été déjà initié en 2016 par Najat Vallaud-Belkacem. Il y a une mesure forte qui concerne l'interdiction des imams détachés, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Vous l'avez évoqué sur la dimension communautaire. Il n'y a rien non plus sur la question des discriminations. Donc moi, je reste plutôt sur ma fin sur la partie mesure.
Et séparatisme communautarisme,
alors,
Gilles.
En revanche, sur le séparatisme, alors je pense que c'est un vrai sujet. Quand Emmanuel Macron dit il n'est pas acceptable que les lois de la religion soient supérieures aux lois de la République, dans l'enquête que la Fondation Jean Jaurès avait faite en septembre dernier, on a vu que 20% des musulmans disaient que les lois de la religion étaient supérieures aux lois de la République. Donc,
et 50% des jeunes, surtout.
Donc c'est un vrai sujet. C'est une marque de fabrique d'Emmanuel Macron d'essayer d'imposer son vocabulaire, ce qui est d'un point de vue politique, idéologique, compréhensible, en essayant de déplacer le terrain et souvent en ayant pour effet d'ailleurs qu'on concentre notre débat sur la dimension du vocabulaire et pas sur les mesures elles-mêmes. En l'espèce, il n'est pas le premier à avoir fait ça. François Hollande avait parlé de partition, Gérard Collomb avait parlé de sécession et je trouve que le mot séparatisme est plutôt plus clair, parce que l'idée qu'on appartient tous, non pas à des communautés au sens du communautarisme anglo-saxon, mais que dans nos identités, on a aussi des communautés. Je pense que c'est une idée qui n'est pas fausse. Et donc le mot séparatisme, je crois, est plus clair. Mais en revanche, je reste plus sur ma fin, sur les actes que je trouve insuffisants.
Les actes,
rapidement, Natacha.
C'est justement là aussi une stratégie politique. Emmanuel Macron annonce une suite, donc on est obligé d'attendre la suite. Même si, je vous rejoins, les mesures sont essentielles, elles ne sont pas suffisantes, on est bien d'accord. Mais je crois que le véritable problème est que nous sommes confrontés à quelque chose qui dépasse cette simple question du séparatisme des communautés. Nous sommes en fait dans une situation de société sécularisée qui est confrontée à une religion qui est en voie de refondamentalisation, c'est-à-dire une religion dont certains éléments veulent absolument imposer une emprise sur la totalité de la vie humaine. Et c'est la stratégie des frères musulmans. Ce n'est pas le séparatisme que pratiquent les frères musulmans. C'est l'imposition dans la communauté nationale d'une emprise de la religion sur les musulmans. Et d'ailleurs, leur stratégie est la reconquête, non pas, c'est pas la conquête d'autres croyants, c'est la reconquête des musulmans. Et c'est contre cela qu'il faut se battre. Et la seule façon de se battre contre cela, c'est de partager les fondamentaux, j'allais dire, de la civilisation européenne, qui est que quelle que soit la croyance, la culture d'origine, nous pouvons partager la raison et la lutte, l'idée de l'émancipation vis-à-vis des déterminismes. Or ça a reculé depuis des années.
C'est pourquoi, d'une phrase, il ne s'agit pas seulement d'un enjeu cultuel, mais d'un enjeu culturel.
Exactement.
Le duel continue avec un autre sujet majeur.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Les Européens doivent aujourd'hui collectivement prendre conscience que, faute de cadre juridique, ils pourraient rapidement se trouver exposés à la reprise d'une course aux armements conventionnels, voire nucléaires, sur leur sol. Ils ne peuvent pas se cantonner à un rôle de spectateur.
Une fois n'est pas coutume, toujours le président de la République. C'était la semaine dernière. Emmanuel Macron prononçait un discours à l'école de guerre. Il appelait à une mobilisation des Européens pour la définition, je le cite, d'un dialogue stratégique. Dialogue qui inclurait la dissuasion nucléaire. Une réflexion sur la dimension authentiquement européenne des forces nucléaires de la France. L'hypothèse d'une dissuasion nucléaire européanisée, je mets le mot entre guillemets pour le barbarisme, suscite de l'embarras chez les 27. Qu'avez-vous pensé, Natacha, de cette proposition du président ?
Je pense que c'est un très bon discours qu'il a prononcé et que c'est une nécessité absolue aujourd'hui de poser ce problème sur la table. On a eu des flottements pendant des années avec une tentation qui était de partager disons de soumettre la puissance de dissuasion nucléaire française à l'idée, ce fantasme d'un couple franco-allemand, ou pas, l'idée de partager même le siège au Conseil de sécurité. Emmanuel Macron n'est absolument pas sur cette idée-là. Il est sur l'idée de penser une défense européenne indépendante et dans laquelle la dissuasion nucléaire est un apport de la France, mais pour autant, et il le constate dans son discours, la dissuasion, ça ne se partage pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il faut appuyer sur le bouton, il faut qu'il y en ait un qui décide. Et c'est toute cette articulation qu'il essaye de mettre en œuvre. Tout le problème est que, en effet, vous l'avez dit, les 27 ne sont absolument pas sur cette même longueur d'onde. Les autres Européens continue à penser que l'OTAN, c'est absolument formidable. Et d'ailleurs, la contradiction d'Emmanuel Macron, c'est qu'il explique que l'OTAN est en mort cérébrale, il prononce ce discours-là, et derrière, il continue à maintenir une déférence vis-à-vis de l'OTAN qui ne permet pas d'aller plus loin dans la construction d'une indépendance européenne.
Gilles.
Alors, j'avais été un peu plus critique que Natacha sur le discours sur le séparatisme. Je vais être un peu plus positif qu'elle sur le discours, enfin sur la séquence, parce que c'est pas seulement le discours de l'école de guerre. C'est une séquence qui a commencé par le voyage en Pologne, qui s'est poursuivie par le discours à l'école de guerre, et puis qui s'est achevée, en tout cas provisoirement, par la conférence de Munich. Bon, c'est quelque chose d'assez classique, ce grand discours sur la dissuasion nucléaire. Tous les présidents de la République l'ont fait depuis une vingtaine d'années. Ce qui est un peu nouveau, c'est que dans un discours sur la dissuasion nucléaire, le président de la République aborde la question du désarmement nucléaire. Et ce qui est plus nouveau encore, c'est que dans ce même discours, il n'y a pas seulement les questions militaires qui soient abordées, mais les questions technologiques et notamment les questions de la souveraineté numérique. Et je crois que tout ça est heureux. Le message aux Européens, c'est là où je vais être plus macroniste que Natacha. Je pense qu'il a non seulement raison de dresser la perspective d'une défense européenne, mais je pense qu'il a raison de le faire dans le cadre de l'OTAN. Parce que s'il veut avoir la moindre chance d'embarquer avec lui des Européens dont la culture stratégique n'est pas la même que celle de la France, c'est en restant dans le cadre de l'OTAN. Et que s'il esquissait une sortie de l'OTAN, là, la France serait davantage encore toute seule et n'aurait aucune chance d'embarquer les Européens avec elle.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec l'autrice et critique de cinéma Iris Bray.